France Culture.
Je t'aimais combien? Je t'aime encore, encore. Serre-moi encore plus fort.
Je passe mon temps à dire que je vais finir un roman et pendant ce temps-là, je publie des livres de poésie. Poésie, poésie, poésie sonore, poésie performance, vidéo poème, radio poésie, photo poème, poésie sur une scène. Les lignes que je lance depuis la poésie vers le récit se suivent et ne se ressemblent pas, mais reviennent toujours bredouilles de romans.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On a une drogue super puissante à vous proposer dans le Book Club aujourd'hui. Elle s'appelle la phrase. Un dispositif dingue, un rail de chemin de fer qui file, poursuit un horizon ou une obsession. Elle sait s'arrêter net ou bégayer un peu. On peut aussi vous proposer un paragraphe, un vers libre, des voix superposées, listes et énumérations, l'arsène entre les langues, bref, énorme trip poétique en vue. Avec deux auteurs réunis autour de notre table, on peut dire que le premier, Jérôme Gamme, fait le point sur sa pratique d'écriture en réunissant, recomposant des entretiens donnés ces 20 dernières années. Quant à Christophe Manon, le deuxième, il publie des élégies mineures, travaillant, comme leur titre l'indique, le contenu de la vie dite quotidienne ou amoureuse. Jérôme Gamme et Christophe Manon sont nos invités. Ensuite, on a rendez-vous avec Mathilde Wagman, comme chaque semaine, pour parler littérature jeunesse. Aujourd'hui, elle évoque l'incarnation, ce ton que mettent les adultes quand ils lisent pour les enfants. Par exemple, les dernières aventures du doudou Berk. On est ensemble pour une heure, ça va vite. Bienvenue dans le Book Club. Bonjour Jérôme Gamme.
Bonjour.
Ravi de vous revoir à ce micro.
Même chose.
Et de vous accueillir à la table du Book Club. Vous publiez Intransitif, poétique de l'interstice aux presses du réel dans la collection Figure. Bienvenue dans le Book Club de France Culture. Et bonjour Christophe Manon.
Bonjour Marie-Richard.
Vous publiez Élégie mineure aux éditions Nous. C'est une collection qui s'appelle Disparate ?
Oui.
Et dans la collection Disparate. Soyez le bienvenu dans le Book Club, on est ravis de vous recevoir. Je l'ai dit donc, une table poésie, ce sont deux livres extrêmement différents, absolument différents, mais on a eu envie quand même de les faire dialoguer ensemble. Il y a toute une partie du livre très drôle au début, Jérôme Gamme, où vous vous demandez mais qu'est-ce que vous faites ? Dans quoi vous vous lancez exactement ? Il y a même une espèce de voix qui vous demande de préciser absolument ce dans quoi vous vous lancez. Et vous jouez d'un refus-désir de dire exactement dans quoi vous vous lancez. Alors avant qu'on écoute une première archive, les archives vont nous servir, comme chaque jour, à alimenter la conversation. Est-ce que vous pourriez dire à quoi ça ressemble, ce livre-là ?
C'est une enquête qui est en même temps une espèce d'apprentissage. C'est quelqu'un qui voudrait, comme vous le disiez tout à l'heure, essayer de comprendre ce qu'il fait, ce qu'il fabrique depuis plusieurs années maintenant, mais qui en même temps n'est pas sûr de pouvoir identifier très clairement quel est son problème. Il voulait faire une phrase, il voulait faire un roman, il n'y est jamais parvenu, ça, il sait au moins ça, mais il ne sait pas ce dont ce serait le nom ou le symptôme. Et donc il passe son temps à essayer de chercher, de gratter, de tirer dans tous les sens pour voir qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire. Et c'est donc en fait une espèce d'apprentissage, un apprentissage qui n'en finit jamais en fait.
Et cette enquête, elle a quoi comme matière ? Elle réunit quoi comme indice ? Parce que j'ai parlé d'entretiens donnés ces 20 dernières années, est-ce que c'est tout à fait vrai ?
Alors il y a ça, mais il y a en même temps 3 ou 4 chapitres, notamment ceux sur le cinéma, qui est sans doute le médium le plus travaillé dans le livre, qui sont tout à fait originaux. Et les autres, c'est comme si, quand j'étais petit, on pouvait faire, quand on était à la plage, des pâtés avec du sable, et puis ensuite on prenait un truc qui ressemblait à une étoile ou un triangle ou un rond, et on l'enfonçait dans le sable, et ça faisait...
Une forme.
Et j'ai fait la même chose, le pâté ici, c'est des entretiens que j'ai fait, en effet, depuis une vingtaine d'années. Et la forme, c'est le désir de faire ce livre, c'est-à-dire de faire un énorme cut-up debout et de recomposer les chapitres qui n'ont jamais existé en tant que tels il y a plusieurs années. Et puis ensuite de reformuler avec leur autorisation certaines des questions et de reformuler toutes les réponses. C'est-à-dire de faire une espèce de...
Rewind, retour, rembobinage.
Exactement, ou de reboot quand on dit qu'une machine dysfonctionne et qu'on va voir si elle se remet en place.
Il y a aussi dans ce montage et dans cette matière, ce qui vous permet de faire le gros pâté à la plage, Jérôme Gamme, des citations d'autres artistes qui sont comme pris dans le même corps de texte. Quel est le statut de ces citations ?
Absolument, je suis heureux que vous soyez sensible à ça, parce que c'est pas des épigraphes. Une épigraphe, c'est un truc qu'on met au début de...
Ah ouais, non, c'est dans le livre.
Dans le livre, c'est comme si on accrochait du linge sur une ligne de... Ils sont à la même hauteur, et c'était une espèce d'écho. J'aurais pas la prétention de me mettre dans cette communauté parce qu'il y a des toutes sortes de génies là-dedans, mais c'est des gens qui m'aident, qui m'aident au quotidien et qui reformulent sans doute mieux que moi ce que j'ai à l'esprit et qui sont vraiment un écho. C'est-à-dire que si je suis givré, je ne le suis pas tout seul, on est à plusieurs.
Vous dites, je ne sais pas exactement quel est le problème ou la question initiale de l'enquête. J'ai bien pris soin de ne présenter aucun de mes invités aujourd'hui. Comment je peux le faire, si je dois le faire, Jérôme Gamme, aux personnes qui vous découvrent aujourd'hui ?
Eh bien, maintenant, je crois que le mot là que je vais dire, qui avant me brûlait les lèvres, maintenant je l'ai. Peut-être grâce à ce livre, je suis un poète. Il se trouve aussi que je deviens photographe et que je fais des arts plastiques, mais
que vous enseignez,
que j'enseigne aussi aux Beaux-Arts et dans des écoles de cinéma. Mais ce mot-là, poète, était compliqué avant pour toutes sortes de raisons. Et c'est un des intérêts, en tout cas pour moi, de ce livre, c'est que maintenant il passe mieux.
Et c'est parce qu'il vous brûlait les lèvres avant qu'il est peut-être d'autant plus intéressant qu'on en discute aujourd'hui. Il est aussi ce mot-là, et peut-être son mot cousin ou parent, la poésie, il est aussi très discuté en fait dans ce livre-là, Intransitif. Même question pour vous, Christophe Manon, est-ce que c'est marrant de vous présenter ? Est-ce que ça vous intéresse cette question-là ?
Toutes les questions sont intéressantes, ouais. Tu vois, parce que quand même, à un moment. Moi, je dis plutôt que j'écris des poèmes. C'est un petit peu différent dans la mesure où je crois pas que ça me soit tombé du ciel, ni c'est pas un don quelconque, c'est une activité que j'aime et à laquelle je m'applique le plus sérieusement possible, mais voilà, j'écris des poèmes.
Est-ce que ça vous permet, quand vous dites j'écris des poèmes plutôt que je ne m'affirme poète, ça vous permet de vous défaire d'une tradition ou d'un statut ?
C'est pas une qualité intrinsèque. Voilà, je pense que c'est lié à un travail, un intérêt pour cette pratique-là, et que c'est à la force de l'avoir travaillé, pratiqué, que je produis un certain nombre de poèmes. Mais je sais pas ce que ça veut dire être poète. Enfin, en tant que, comme si ça faisait partie de mon statut d'être humain, quoi. Mmh. Voilà, c'est une activité.
Oui, mais justement, ce qui est intéressant, Jérôme Gamme, c'est que précisément, vous en faites une pratique. Vous en faites une fabrique, ce « je suis poète ». Est-ce que vous savez un peu plus ce que c'est, « je suis poète » ?
Oui, et c'est marrant parce que, justement, c'est le mot « poème » qui me poserait un problème. J'aime l'écriture et le texte, c'est surtout le texte. Je parle de texte plutôt que de, mm-hmm. plutôt que de poème en tant que tel. Par contre, par poète, j'entends non pas une, comme tu le dis, non pas une espèce d'identité ou de prétention ou quoi. Par contre, j'entends une activité, un certain type de rapport à la langue, en fait. Donc c'est plus langue, texte, et poète serait un rapport à la langue. Et ce rapport-là, c'est ce que la barre oblique qui est un peu mal placée dans ce titre veut dire. Il est à la fois en train de dire des choses, mais il est à l'intérieur du dire même. Et pour moi, ça veut dire ça.
Et cette position par rapport à la langue que vous pourriez exercer, Jérôme Gamme, en étant poète, elle peut s'exercer, on l'entend, sur la matière du texte, sur la matière du langage, et aussi sur toutes les autres matières ? Est-ce qu'on peut être poète en regardant un film ?
C'est une super belle question. C'est une super belle question parce que on se dirait, quand on regarde un film, être poète en regardant le film, ça pourrait vouloir dire être tellement pénétré par les inventions formelles, plastiques, esthétiques du film, qu'elles sont en train de nous apprendre à l'être. Oui, tout à fait. Et de cette façon-là, oui. Oui, on pourrait l'être. C'est-à-dire qu'on est à la radio, je crois qu'il y a une même fréquence. Herdienne ou émotionnelle ou sensorielle entre les activités artistiques, même si elles ont des médiums, même si elles ont des grammaires ou des vocabulaires différents. Je crois que oui, tout à fait. On peut parfaitement voir la poésie à l'œuvre dans un film, par exemple, pour reprendre votre exemple, tout en étant soi-même quelqu'un qui travaille avec des mots.
Je le disais, il y a l'entrée des autres arts, bien sûr le texte, les auteurs, Jérôme Gamme dans votre livre, mais pas que, on va l'entendre, vous le signalez ici, le cinéma, mais d'une certaine manière c'est un livre qui est aussi travaillé par le fait que vous laissez en permanence entrer dans cette fabrique-là d'autres pratiques artistiques. Est-ce que c'est aussi votre cas, Christophe Manon ?
Non, je suis un petit peu monotache. J'ai pas beaucoup de. Non, j'ai pas de. Je pense que j'ai pas énormément de talent.
Non, mais sans nécessairement les produire. C'est-à-dire que, en effet, Jérôme Gamme fait aussi des lectures performances ou dessiner poèmes, etc. Mais en tout cas, se laisser traverser par d'autres histoires de représentation, d'autres pratiques, c'était plutôt dans cette.
Bien sûr. Effectivement, comme disait Jérôme, en fait, en regardant un film, en regardant des œuvres d'art, enfin, voilà, on est traversé par toutes ces choses-là. Et pour moi, c'est effectivement les mêmes ondes, je reprends ton vocabulaire, c'est les mêmes ondes hertziennes, en fait. C'est du sensible qui nous est adressé. Et auquel on est plus ou moins perméable et qu'on reçoit. Donc oui, pour moi, c'est exactement le même type de réception, je dirais.
Voilà. Est-ce que vous savez depuis quand vous êtes quelqu'un qui écrit des poèmes, Christophe Manon ?
Il y a une différence entre le moment où on arrive à le reconnaître, à l'admettre, à le dire, à le revendiquer pratiquement, et puis le moment où il y a une différence entre le moment où on commence véritablement. Moi, je crois que j'ai commencé au collège quand même, parce que tout simplement de lire les poèmes des autres m'ont donné envie d'en écrire en fait.
Et le moment où vous pouvez le dire à peu près tranquillement?
Je crois que c'est tout simplement, il y a un moment, alors je ne parlerai pas de légitimité parce que ce n'est pas vraiment la question, mais à partir du moment où on assume un petit peu la chose, quoi. C'est pas si évident que ça quand on est un adolescent de dire ouais, j'écris des poèmes. Je veux dire, les camarades se fichent assez de nous.
Et quand on est un adulte et quand on est un homme, c'est plus facile.
La différence, c'est que c'est presque pratiquement devenu une activité professionnelle. C'est donc mon travail. Donc quand on me demande,
vous pouvez le dire, quoi.
Je peux le dire.
Est-ce que vous savez depuis quand vous êtes poète, Jérôme Gam?
Si poète veut dire être un peu... que les mots nous fassent taire jusqu'à ce qu'on invente une autre façon de re-rentrer dedans, je dirais que c'est, oui, que c'était tôt. Que c'était dans l'enfance. Ou
oui, tôt égale l'enfance, quoi.
Oui. Mais ça faisait pas de moi quelqu'un qui écrivait des poèmes, mais a fortiori des poèmes intéressants le reste.
Mais on c'était... a de toute façon distingué les deux
voilà,
choses.
Voilà, c'est ça. C'était une intensité. Si par poète, c'est une intensité avec l'activité verbale, tôt.
On va écouter une première archive. Vous la citez. C'est pas tout à fait le moment d'ailleurs où vous la citez, Jérôme Gam, mais c'est un entretien pour la télévision, pour France 3, en 1987, entre Jean-Luc Godard, cinéaste donc, et Marguerite Duras. Ils discutent en cinéaste, mais c'est quand même une romancière qui dit à un cinéaste qu'elle a trouvé son film beau.
Ton film est très beau. Je ne vois pas chaque fois la raison d'être du texte. On peut pas faire un film sans parole.
Les écrivains m'intriguent, comment est-ce qu'ils osent écrire, et moi j'ai pas osé. Et j'étais content, je sais pas, de découvrir un objet mécanique où il n'y a pas grand si on peut dire, pas grand chose à faire.
Mais quand même, tu le remplis de sons, de mots.
Oui, mais je les aime. C'est ça, j'aime bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de. C'est des lutins. C'est des lutins de Shakespeare, tandis que chez toi, c'est les. Ou chez Beckett, ou chez. Ce sont les rois. Mais j'aurais pas dû mettre des mots là, mais j'ai rien trouvé d'autre, certainement.
Il s'excuse d'avoir mis des mots dans ses films, Jean-Luc Godard, devant Marguerite Duras. Ils sont de part et d'autre d'une table, probablement à Paris, hein, c'est ça? C'est chez elle, non?
C'est chez elle, ouais. Saint-Benoît, oui.
En 87, c'est un entretien que vous citez. Je vous fais écouter ça à tous les deux en quasi début de notre émission pour évoquer plein de choses. Peut-être dans un premier temps, la forme de l'entretien. Alors, avec un effet méta, parce que c'est ce qu'on fait nous, voilà, c'est qu'on s'entretient à propos de vos livres. Puis évidemment, ensuite, pour parler du contenu de leur dialogue. Cette forme-là, elle vous intéresse manifestement, Jérôme Gam, puisque vous la reprenez, vous jouez avec, vous inventez même des dialogues entre vous-même, une sorte de voix alter qui vous permet de vous répondre et de vous questionner. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce question-réponse?
Oui, vous avez bien raison que l'entretien, je crois que c'est un médium en tant que tel, qu'il soit radiophonique ou par écrit. Je serais, à mon avis, à la télé, c'est un peu plus compliqué. Et d'ailleurs, les gens d'Océanie qui ont fait cette émission, ils avaient en face de deux cinéastes et ils ont trouvé une espèce de... Ils sont pas en champ contre champ, ils sont tous les deux dans le même plan. Ce qui me fascine dans l'entretien, c'est l'interlocution. C'est-à-dire le fait que ce qui est dit est interdit ou intradit. C'est-à-dire qu'il est dit à plusieurs. C'est le contraire du monologue, un entretien. Quand ça marche bien, c'est pas deux monologues qu'on tisse l'un à l'autre.
Normalement, la somme dépasse... C'est pas 1 plus 1 égale 2, on est
d'accord. Exactement, c'est ça. Et ça fait que chacune des parties, puisqu'elles peuvent pas être sommées comme ça, est en jeu et lui arrive quelque chose dans l'entretien. Et c'est ça ce qui me fascinait avec. Et puis en plus, c'est aussi une forme où il y a le corps qui parle. C'est pas juste des mots comme ça qui se trimballent un peu à distance. C'est aussi du corps en train de parler. Et qui peut donc être en train de réagir, de reformuler, de repréciser, qui est en jeu.
Mais c'est aussi l'endroit de la question. Si on avait laissé courir plus longtemps cette archive de 1987, bon, elle joue le jeu, Duras, puis de toute façon, elle le fait assez bien. Elle pose des questions, elle lui pose des questions. Puis d'un seul coup, lui, d'ailleurs, il a une sorte de statue très étonnant où il répond, où il tente de répondre. C'est aussi ce à quoi vous jouez avec vous-même, avec votre propre pratique. L'entretien qui est le lieu de la question, ça aussi, ça vous intéresse?
Vous le dites précisément, le lieu de la question, ça pourrait s'entendre de manière flippante, voire policière, à la question, ou juridique, ou...
Ou aveu foucadien, mais c'est pas...
Aveu foucadien, mais c'est pas du tout ça. De temps en temps, je trouve que c'est très très bien de dire à quelqu'un, arrête ton bullshit. Et dans un entretien, on peut le reprendre. À nouveau, pas au sens disciplinaire du terme, mais on peut lui proposer d'aller plus loin. Et ça, c'est intéressant. Puis ensuite, dans l'extrait que vous avez passé, c'est quand même c'est impressionnant ce truc. On dirait Néron, Duras, et Godard regarde ses pieds, quoi. On dirait Tintin qui regarde ses pieds. Et quand on sait l'œuvre cinématographique de Jean-Luc Godard, c'est très 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 impressionnant d'entendre leur ton, d'entendre le... On dirait un petit garçon.
Oui, exactement. Après, il n'est pas interdit qu'il joue. Moi, en voyant l'image, je me dis, il est suffisamment intelligent pour aimer jouer.
Ouais,
le mec qui s'excuse d'avoir mis des mots dans ses films. Il dit, oui, t'as raison, j'aurais pas dû en mettre, mais je n'ai rien trouvé d'autre. Ouais. C'est aussi un mot d'esprit, d'une certaine manière.
Et puis, c'est une stratégie, surtout, quand on voit son travail de critique au du cinéma, et l'accent qu'il a, en plus. C'est très impressionnant.
Christophe Manon? Sur cette question-là, je ne sais pas,
je croyais
que vous aviez quelque chose à dire, sinon j'ai une question.
Je peux au moins répondre sur la question de l'entretien, en fait, du moins si c'est par rapport aux élégies mineures, c'est-à-dire que pour moi la poésie est une adresse, donc il y a déjà cette question-là qui se met en place, alors c'est une adresse, donc ça n'engage pas forcément la réponse, mais en tout cas il y a déjà ça.
Par exemple, dans vos élégies, elle se manifeste par le « tu », elle se manifeste par quelque chose qui, en tout cas, il y a une entité quelque part, en l'occurrence plutôt un corps, et plutôt souvent un corps aimé, mais pas que.
Il y a plusieurs corps, en fait, qui parlent, et en fait, là ça rejoint aussi la chose, c'est pas une sorte de monologue, mais c'est plutôt... des voix polyphoniques, en fait, des bribes de voix comme ça qui circulent dans le poème et qui énoncent des phrases qu'on peut entendre à plusieurs, enfin, que tout le monde peut avoir entendu, en fait. Donc, c'est presque de l'ordre, effectivement, il y a même des bouts de dialogue, en fait, des petits bouts comme ça qui circulent de façon très minime, quoi, enfin, très déconstruite quasiment. Mais oui, ça relève de cette petite question de l'entretien, en fait, oui.
Et d'ailleurs, de l'entretien, en effet, on peut, le disait Jérôme Gamme, ponctionner quelque chose du discours de l'autre, lui demander éventuellement de le préciser ou le lui renvoyer pour que ça puisse être augmenté selon la règle que 1 plus 1 ne va pas faire 2, mais peut-être 3 ou 3,5 ou 4 ou même 100, qui sait. Mais évidemment, entendre Godard dire « t'as raison, j'aurais pas dû en mettre des mots, mais j'ai trouvé que ça », c'est vrai que quand on ouvre « Élégie mineure », qui est le titre de votre recueil et qui commence par « pas les mots », n'a pas su dire les mots, les morts s'oublie, ne m'oublie pas, les morts sont sans repos, mais, et ensuite il y a une sorte de litanie qui dit c'est de toute façon toujours la même histoire, ce pas les mots pour ouvrir un recueil de poèmes induit une position vis-à-vis du langage peut-être.
Certainement, mais c'est que je crois que ça aussi, Jérôme l'a un tout petit peu dit au départ, c'est écrire c'est peut-être un rapport très pas forcément conflictuel, mais très ni douloureux, mais un petit peu compliqué avec le langage. Si je savais dire les choses, peut-être que je les écrirais pas. Enfin, donc là, voilà, les mots ils sont là, on essaie de les faire circuler, de jouer un petit peu avec, oui.
Est-ce que c'est un pas les mots qui convoque aussi le silence, quelque chose dont parle beaucoup Jérôme Gamme, l'idée qu'il y a une part silencieuse ou une part première ou un fantôme silencieux dans le langage? Est-ce que ce pas les mots qui ouvre vos élégies mineures raconte aussi quelque chose qui se tait?
Ça dit quelque chose qui se tait, certainement. Ça dit aussi des paroles qui sont tues, c'est-à-dire aussi des paroles de... morts, de gens qui sont disparus et dont on peut entendre les voix ou dont les voix résonnent encore en nous en écho, comme ça. Donc oui, c'est une sorte de tourbillon, de tourbillon de voix comme ça qui circule au fond, je pense, dans la tête de chacun ou chacune d'entre nous et qu'on peut capter. En fait, c'est là aussi, la métaphore de la radio pourrait assez bien fonctionner. En fait, j'ai l'impression que en écrivant les élégies mineures, c'est comme si quand on bouge le
curseur, bouton de la radio
et que ça circule sur les fréquences comme ça. Et ça circule sur les fréquences, mais à la fois temporelles. et spatiale. Mmh. Voilà. Et donc, voilà, on capte des petits bouts de trucs qui circulent comme ça, des petits bouts de mots qui, ou de phrases, ou d'énoncés, pour de bon.
J'attrape ce que dit Christophe Manon comme un cadeau, l'idée d'un espace et d'un temps, une bande temporelle et spatiale, Jérôme Gam, puisque vous pensez la poésie comme cet espace-temps où va pouvoir enfin ou autrement exister votre obsession pour la phrase ou pour le dire. C'est quoi cet espace-temps que serait la poésie?
Ce serait... En plus, ce serait l'espace-temps que la poésie ou l'expérience poétique pourrait ouvrir, mais il n'existe pas en tant que tel, il ne préexiste pas à l'expérience en question, mais ce serait celui où, plutôt que d'avoir de la... un temps chronologique, comme ça, qui se déroulerait de manière causaliste, logique, il pourrait y avoir des coexistences, il pourrait y avoir des durées, il pourrait y avoir des simultanéités, il pourrait y avoir des étirements, c'est-à-dire qu'on pourrait être à plusieurs endroits de notre expérience en même temps, simultanément. Ensuite, il faudra trouver comment ce que ça pourrait faire, entre guillemets, sens, mais en tout cas, le sens que ça ferait serait libre, serait émancipé de ce qu'on voudrait ou on exigerait, notamment dans la...
L'impératif chronologique, par exemple.
Par exemple, qui se trouve dans la grammaire aussi, qui se trouve dans une certaine idéologie de la langue comme clarté. J'ai un antagoniste dans ce livre qui est Boileau,
À partir de quelque chose, on peut peut-être dire cette citation, cette fameuse.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Alors, c'est très beau quand on entend ça, on se dit merde, si jamais je parviens à faire ce truc-là.
Mais vous en faites un énoncé totalitaire à combattre, presque.
C'est pour ça que ça commence en disant que ça a l'air, c'est presque une hypnose, ce truc. Ouais. On se dit, si j'arrive à faire ce truc-là, je serai le contraire d'un crétin. Mmh. Ce sera magnifique, je serai jamais paumé. Et plus on rentre là-dedans, plus on se dit mince, j'ai l'impression que j'existe, mais que j'existe rabougri, quoi. Enfin, que je suis dans un truc qui... Comment est-ce qu'on se débrouille pour dire plusieurs choses à la fois? Ou moins qu'une? Et que le fait de vouloir en dire plusieurs à la fois ne soit pas un syndrome, ne soit pas une impuissance.
Et ne soit pas non plus que un prétexte à l'exclusion ou à la marginalité, même si ni l'un ni l'autre, on a l'impression que vous seriez complètement chagriné d'appartenir à la marge. Mais néanmoins, il y a quelque chose... En tout cas, Jérôme Gam, vous refusez l'impératif de clarté. Le tout début du livre dont je disais qu'il était drôle, c'est aussi vous qui discutez avec... je sais pas, tout un champ social, éventuellement médiatique, éventuellement éditorial, qui vous demanderait, mais qu'est-ce que tu fais? Explique-nous ce que tu fais, fais-le clairement, explique-nous vraiment. Il y a quelque chose où, voilà, vous riez de cette demande qui vous est faite.
Oui, et en même temps, c'est pas pour me placer au-dessus de vous le disiez tout à l'heure, mais je suis enseignant, etc., donc je pense que c'est très très bien de...
Transmettre
et de s'adresser, c'est-à-dire d'écouter, de reconnaître la position de l'interlocutrice, c'est d'être dans cette présence-là. C'est lorsque ça devient, à nouveau, on va dire le mot un peu qui brûle, une idéologie, c'est-à-dire un forçage qui consiste à dire, à nouveau, si tu ne peux pas être constamment là-dedans, c'est que tu es manquant au sens où c'est que tu es malade. Et ça, non. Justement.
Christophe Manon, je vous voyais réagir sur la question de pouvoir dire plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire pas seulement passer d'une fréquence à l'autre dans le poème, mais éventuellement être sur plein de bandes de fréquences simultanées.
Je rêve de poésie quantique. Et je crois que c'est un petit peu ça qui se passe.
Mais
oui, c'est ça. Il peut y avoir plusieurs temps en même temps qui disent des choses inverses. Voilà, ça peut revenir en arrière. Ça peut. Voilà, je crois que c'est un petit peu ça ce que... Alors, ce que j'ai vaguement essayé dans les élégies, mais je crois que c'est un petit peu ça ce que produit certaines formes de poésie, en tout cas.
On entendait aussi Jean-Luc Godard dire, alors savoir s'il joue ou il ne joue pas, mais j'ai pas osé écrire, tu sais, je suis fascinée par les écrivains, moi j'ai pas osé. On le croit ou on le croit pas, mais est-ce que vous avez eu l'impression dans votre pratique poétique qu'à un moment donné il fallait oser, Christophe Manon? Et dans ce cas, quoi?
Oui, je crois qu'il faut oser, oui. Je crois qu'il faut oser parce que...
Mais il faut oser quoi? Puisqu'il semble, il semble parler d'une forme d'audace que lui n'aurait pas eue. C'est pas comme s'il en avait manqué par ailleurs.
Non, mais alors, il ne s'agit pas du tout, par exemple, de croire que ce qu'on peut dire peut être plus intéressant que quoi que ce soit d'autre. Ça, ce n'est pas du tout dans ce sens-là que j'imagine qu'on ose quelque chose, mais dans le sens où... c'est quand même, encore une fois, une adresse... Un poème, c'est une adresse à ce que, pour moi, c'est au semblable, aux personnes qui peuvent l'entendre, le recevoir, le lire. Et par conséquent, on s'adresse à quelqu'un, donc il y a quand même un moment où on sort un tout petit peu du bois pour dire quelque chose, pour exprimer sensation, une émotion, mm-hmm. quelque chose, pour le partager. Voilà. Et donc à ce moment-là, ben oui, il y a une tout petit peu de... Et c'est pas question de se désinhiber, hein, parce que moi je suis parfaitement caché derrière tout ça. Enfin, je veux dire, c'est pas ma vie privée n'intéresse personne, et tant mieux. Mais je crois que là, dans la position d'énonciation, il y a effectivement une façon d'oser quelque chose. Ouais.
Comment vous l'entendez-vous ce verbe oser, Jérôme Gamme?
Chez Godard ou en général?
Comme vous voulez.
Je trouve que chez Godard, je trouve que c'est super qu'il ait pas pu écrire. Parce qu'il a fait les films qu'il a fait. Autrement dit,
en plus, ils viennent comme en réaction au fait qu'il n'aurait pas pu écrire.
Non, mettons que ne pas pouvoir écrire.
D'ailleurs, il a écrit.
Et c'est ce que j'allais dire. Ouais. Il a écrit plein de trucs, mais enfin, il a pas de Pierre Le Fou à qui on voudra. Il y a tout le temps des romans dans ces trucs. Il n'en a pas fait comme ça. Ensuite, il a fait des aphorismes dans les histoires du cinéma dont on fait des volumes, mais c'est pas le fait qu'il puisse. C'est comme s'il était en face d'un mur, donc il va gratter, il va creuser des trous, il va se débrouiller pour passer de l'autre côté. Ça se trouve être sa filmographie. Mm-hmm. Donc moi, je me réjouis comme cinéphile qu'il n'ait pas.
Qu'il ait buté contre quelque chose.
Qu'il ait buté contre quelque chose. Maintenant, oser. En général, oui, mais constamment, j'allais dire, il faut ne pas hésiter une seule seconde.
Mais c'est oser quoi alors si on parle de votre.
Oser l'incongruité. Oser la singularité. Pas la fétichiser, ça ferait de la...
Pas en faire quelque chose en soi.
Non, et surtout si on fait de l'incongruité pour le fait d'être incongru, c'est comme des gens qui pensent qu'ils vont jeter quelque chose sur le mur et que ça va faire Jackson Pollock, et c'est mal barré la plupart du temps. Par contre, il faut oser une singularité, sa propre singularité, et il faut oser l'incongruité qui va avec.
Mmh. Et c'est pas facile.
C'est pas facile, je crois
que c'est une question.
Oui, c'est pas facile au niveau du travail, parce que j'ai pas eu de difficulté. Mais là où c'est, il faut reprendre le texte. Mmh. Il faut éviter le spontanéisme, parce que dans cette question, oser,
ça pourrait être ça. Ouais.
Oser Joséphine, ça veut dire vraiment hop. Et il n'y a pas de hop. Enfin, s'il y en a de temps en temps, mais c'est des moments ultra précieux et ultra rares.
Faut oser travailler, en fait.
Mais vous avez un talent pour synthétiser les choses, mais c'est exactement ça.
Franchement, je vais en faire un t-shirt.
Pleine et grasse de lois les chiens. Bientôt Noël, j'aime tout à Noël. Tonton les papas, le coup de fil du cousin. Bientôt Noël, moi j'aime Noël. Les lueurs latentes qui rendent zinzin. Bientôt Noël, j'aime tout à Noël. Les cloches qui sonnent à l'intérieur des gamins. Bientôt Noël, moi j'aime Noël, la messe de minuit en latin. Bientôt Noël, j'aime à chaque Noël, les bandes battues à 3h du matin.
Moi j'aime Noël.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Élégie 1. Pas les mots, n'a pas su dire les mots, les morts s'oublient, ne m'oublie pas, les morts sont sans repos, mais c'est toujours, toujours la même histoire, toujours la même histoire, dit-elle, les années, toutes les années, les très longues années, et puis fermer les yeux. Mais pourquoi? Pourquoi, dis-moi, pourquoi? Oh pourquoi, s'il te plaît? Les bêtes vivent, les plantes vivent, les hommes vivent, les bêtes meurent, les hommes meurent aussi. Et les plantes, les hommes ne meurent pas. Ils disparaissent, on les oublie, les arbres et les plantes poussent. Oh, c'est ainsi, oh. Ne pleure pas, mon petit, mon tout petit, s'il te plaît, non, s'il te plaît, ne pleure pas, mon petit, mon petit cœur adoré, s'il te plaît, ne pleure pas. Les espérances, les petites, les grandes, les petites espérances. Vois, mais vois donc, sois sage, s'il te plaît. Noir et jaune et vert et rouge, s'il te plaît. Gris, bleu, jaune, vois, oh mais vois donc. Que l'avenir est incertain, que nous sommes tous destinés à mourir, que tout est pour le mieux. Vent, Pluie, ciel, nuage, arbre, ciel, pluie, nuage, vent. Il pleuvait. Il pleut. T'en souviens-tu ? On est bien peu de choses, dit-elle, bien peu de choses à la fin, une poignée de cendres à la fin répandue sur toute chose. Voici ce que nous sommes, c'est toujours la même histoire qui n'en finit pas, c'est fini. Mais c'est toujours pire, c'est encore toujours pire. Où sont-ils, que sont-ils devenus ? Une égratignure, une toute petite égratignure, rien de plus. N'y va pas, si tu t'en vas, j'irai, en rêve, je vais t'y retrouver. Vaille que vaille, et des meutes de chiens. Tant de fois j'ai passé en pensée ma main dans tes cheveux. Ce jour-là c'était un jour, c'était un autre jour, un jour de plus en moins. C'est ainsi, oh c'est ainsi. Vive, vivra, vivront, vivez, a vécu, un petit tour et puis s'en vont. C'est cela, c'est bien cela, oui, c'est cela qui nous fut demandé.
C'est la première élégie de votre recueil Élégie mineure, Christophe Manon. Est-ce que vous voulez bien nous dire ce que recouvre ce terme, là pour le coup dans la tradition littéraire, les élégies, pourquoi vous l'avez choisi et qu'est-ce que raconte ce qualificatif de mineur ?
Alors les élégies, effectivement, c'est une forme dans l'Antiquité, après c'est plutôt devenu une sorte de genre poétique. Je ne vais pas faire l'histoire de l'élégie, mais voilà, c'est en général, ce sont des poèmes qui sont écrits à la première personne et qui reviennent sur le passé de façon relativement mélancolique. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. Quant aux élégies mineures, la question du mineur, c'est tout simplement la toute. Peut-être un tout petit peu entendu là, c'est qu'en fait, et je l'ai dit un tout petit peu tout à l'heure aussi, c'est que, voilà, on entend des bouts de phrases, des choses comme ça qui sont du quotidien, enfin des choses que n'importe qui peut dire, c'est ainsi, je sais pas, j'ai perdu les exemples, mais peu importe.
En tout cas, il y a quelque chose voilà. du langage qui circule aisément.
En fait, des sortes de fantômes de langage, pardon, je voulais pas vous dire, mais voilà, des sortes de fantômes de langage, des bribes de choses comme ça qui encore une fois, circulent, je pense, un petit peu dans nos esprits et que j'ai essayé d'attraper, de saisir comme ça un tout petit peu.
En présentant aussi les élégies mineures au début de cette émission, Christophe Manon, je faisais mention de cette qualité triviale de la vie que vous attrapez sur ces différentes fréquences, mais aussi de la place faite à l'amour, à la dimension amoureuse, à l'étreinte amoureuse ou au souvenir de l'étreinte amoureuse. Est-ce que dans ce mineur-là, il y a aussi ça, le petit et grand d'une caresse, le rapport au petit, le mineur aussi du souvenir qui s'éteint ?
Oui. Je, en tout cas dans mon travail, je m'intéresse à la fragilité aussi, enfin à tout ce qui est effectivement un tout petit peu comme ça qui peut disparaître, enfin qui s'efface, le rêve, les bribes de rêve, pas un rêve, les bribes de souvenirs comme ça, c'est construit à partir de toutes ces petites choses là. Mais oui, j'essaie d'être attentif à ce qui est à peine saisissable comme ça. C'est ça.
On entendait la rythmique, la métrique, c'est quelque chose à quoi s'est attachée Anne-Marie. Elle a lu les élégies mineures, elle est auditrice du Book Club, elle vous adresse une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Christophe Manon, j'ai lu Élégies mineures, j'ai retrouvé votre voix et votre gestuelle marquant le rythme. Et je me demandais comment vous étiez tomber sur cette forme poétique d'un parfait lyrisme pour dire et pour nous raconter tous ces mondes. Merci pour votre réponse.
Merci Anne-Marie pour cette question.
Merci Anne-Marie pour cette question. Ça commence toujours en fait, le premier vers met la tonalité. Et... je ne sais plus quel est le premier vers, mais...
C'est pas les mots, je crois.
Oui, voilà. Je ne connais pas mes œuvres par cœur, mais...
Pas les mots, n'a pas
voilà. Mais en tout cas, voilà, ça s'installe dès le début, comme ça. Quand j'écris un livre, j'entends toujours une sorte de toute petite musique, Et je m'efforce de la tenir jusqu'au bout. Et ça, c'est, je me rends compte que mon livre est fini quand de toute façon je peux plus répéter la même musique. Ça fonctionnera plus.
Vous parlez de petite musique et il y a quelque chose, notamment dans les vers qui sont portés en italique, du retour de la comptine, du retour de la berceuse, pour qui a eu la chance qu'on lui chante deux, trois chansons comme ça, ben, ça revient, il y a longtemps que je t'aime, ou la petite souris verte. Comment est-ce que c'est, parce qu'il y a aussi ce mineur, c'est-à-dire que d'un seul coup, élégie mineure, j'ai eu aussi envie d'y entendre l'enfance.
Exactement. Là aussi, c'était la même. En fait, c'était la même chose. En fait, mon intention, elle était très simple. C'était de savoir qu'est-ce qui circule comme ça, et qu'est-ce qu'on on entend. Il y a beaucoup de choses sur l'enfance, mon petit, mon tout petit, par exemple, des choses comme ça qui relèvent effectivement de la comptine. Je crois tout simplement que c'est l'endroit où peut-être quelque chose peut. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui nous fait commun, en fait. Elle parlait de lyrisme, Anne-Marie. Et en fait, pour moi, le lyrisme, c'est pas l'expression d'une singularité, mais c'est à partir du moment où cette singularité permet de retrouver du commun, en fait. Si je parle de, si on entend, par exemple, mon tout petit, tout le monde a entendu ça, en fait, tout le monde, ou quasi tout le monde, j'espère, en tout cas. Et, en tout cas, ça peut éveiller quelque chose en chacun ou chacune d'entre nous, il me semble. Et voilà, c'est ça que je cherche. Et les comptines, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des petits bouts de chansons qui circulent comme ça, et qui, au fond, sont susceptibles d'éveiller du sensible ou du souvenir en chacun d'entre nous.
On parlait des voix et on continue sur la liste des archives qu'on voulait vous faire entendre aujourd'hui. On va entendre celle du poète Gerasim Luka dans cette fameuse lecture-performance dont vous parlez, cette forme-là, Jérôme Gamme, des lectures-performances avec passionnément. C'est qu'un petit extrait.
Passionnément.
Ce texte entièrement fondé sur le bégaiement. Bégaiement, donc, qui vient mettre à mal l'intégrité du mot passionnément, jusqu'à temps que puisse enfin être formulée cette déclaration d'amour universelle, je t'aime passionnément. Et de fait, il y a quelque chose d'absolument merveilleux dans ce texte, à partir donc d'une phrase décomposée maladroitement, avec timidité, semble-t-il, la timidité de celui qui n'ose pas encore déclarer son amour, bien à partir de cette seule phrase, c'est le monde entier qui est créé. Et comme si, de fait, la création de l'univers dépendait de cette profération amoureuse.
Je t'aime, passion, ma gacre, crache sur les rations, ma terrible passion, passionné, terrible passion, je t'aime passionné.
La voix de Gerasim Luka qui performe ce poème passionnément. Jérôme Gamme, il y a un des chapitres qui s'appelle « Bégayer, dit-il », qui rejoint Duras d'ailleurs. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette forme-là du langage qui vous intéresse et qui vous permet, puisque c'est l'objet du livre, de faire le point sur votre pratique d'écriture ?
C'est que, et ça s'entend vraiment dans l'extrait que vous avez pris de Lucas, c'est que ça parle d'un problème. Dans passionnément, moi j'entends pas, P-A-S, C-E, mais aussi passe, P-A-2-S-E. C'est un truc qui dysfonctionne, il faut qu'il passe à travers quelque chose. J'entends le passer à travers quelque chose. Et ce qui, ensuite, bégaiement, On m'a dit que ce que je faisais bégayait, mais je m'étais pas dit tiens, je vais bégayer au sens.
Au sens où on vous a dit que votre écriture poétique.
Voilà, bégayait. Voilà, ouais. Créer des effets de bégaiement, mais c'est pas quelque chose que.
Que vous cherchez.
En tout cas, que je cherchais consciemment. Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ce qu'on peut passer à travers. Mm-hmm. Ce que j'entends dans Lucas, c'est quelque chose qui passe à travers. Mm-hmm. Cette traversée, ce frayage. Fait entendre toutes sortes de trucs qui partent un peu dans non pas dans tous les sens, qui sont cohérents, mais qui font entendre que l'énoncé ne va pas de soi. Mm-hmm. Pas de soi au sens où il serait ultra simple et ultra naturel.
Et ultra lisible et univoque aussi, parce que passant à travers le « je t'aime passionnément » et y passant difficilement,
c'est
presque...
Génial.
Oui, on vous entend... Quand vous dites, on a presque l'impression qu'il est dans une grotte avec un piocher, là, ou un piolet. Et
c'est ça, qui gratte un
il
truc.
Il attaque le mot, quoi.
Il fraye une espèce de galerie, et du coup, ça fait entendre à l'endroit des effets de sens que la passion en question n'est pas juste un truc éthéré qui planerait comme ça. Elle, au contraire, quelque chose qui se construit, qui se fraye, comme on se fraye un passage. Et donc
et qui est nourri de plein d'autres choses, de plein d'images. C'est qu'à mesure qu'il défonce, détruit, étire tous les mots par lesquels il passe, il y a le père, il y a la pisse, il y a Lyon, enfin il y a plein de choses qui arrivent en étirant ce je t'aime passionnellement. Il y a un truc qui expire à la fin dans le je t'aime. Et le pape, en effet, exactement. Ouais, c'est hyper beau. Et à la fin, il y a un je t'aime qui expire, qui est un peu plus calme et qui me fait penser à ce que vous découvrez enfant et que vous racontez, qui est très beau, une histoire de diaphragme, pour le coup, Jérôme Gamme, où on vous fait respirer, on vous réapprend, on rééduque la respiration.
Oui, absolument. J'avais des problèmes d'asthme, mais une personne m'aide, une femme, kinésithérapeute m'aide, me fait comprendre que pour expirer, c'est pas à partir des muscles qu'on a autour des poumons, c'est les muscles qu'on a dans le ventre.
Je tiens à dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent que c'est une clé pour la vie entière. Je rigole pas. Hein.
Non, mais j'entends. J'entends ce que vous dites. Et puis, vous avez un contrôle de votre voix de par votre profession qui est très réel. Donc, j'imagine que... En tout cas, ça m'a fait vachement d'effet de comprendre qu'il y avait... se vider de quelque chose et expirer était tout aussi plus important, en fait, qu'inspirer. Et dans inspirer, il y a inspiration, ce qui peut être aussi...
Trompeur.
Trompeur, exactement. Exactement. Et le bégaiement aussi, c'est faire que... quelque chose dysfonctionne. Ce qui me touche dans l'extrait que vous avez choisi de Lucas, c'est que dans la dysfonction, il y a un nouveau type de fonctionnement. Ça dysfonctionne par rapport à quelque chose qu'on attendrait à nouveau, qui serait normal, et qui serait usuel, et qui serait effective, avec une effectivité qui recouvrirait tout. Alors que là, on entend quelque chose qui sort, qui s'extrait, qui rate. Rater mieux.
Beckett, il y a quelque chose dans votre recherche-enquête dont vous parliez, hein. Vous parliez de votre livre intransitif poétique de l'interstice comme d'une enquête à partir d'un problème dont vous ne connaissez pas exactement les coordonnées, Jérôme Gamme. Il y a quelque chose qui va aussi du côté du refus. Alors, c'est pas exactement pareil que bégayer, mais ça va aussi là où ça bute, là où ça marche pas, là où ça rate, vous dites. Qu'est-ce que vous refusez, d'après vous, dans ces quelques dernières années d'écriture?
Oui, tout à fait. Ce que je refusais, c'était une espèce de quelque chose qui fonctionnerait, une rhétorique, un système rhétorique qui serait trop ponctueux et dans lequel on dégoulinerait et on serait complètement enfoncé dedans et on pourrait plus rien dire de quelque ordre que ce soit, ni critique, ni affectif, ni sensoriel, ni quoi que ce soit. La langue, elle est exactement comme un système. Ici, je suis sûr, dans cette salle, il doit y avoir de l'air conditionné.
Je vous fais pas dire.
Eh ben, on appuie sur play ou on et ça tourne tout seul, ça mouline tout seul. Cette chose-là, c'est elle que je refuse, d'une certaine façon. Et à nouveau, je prétends pas être au-dessus ou je ne sais quoi, ça peut être en moi, ça peut parler à travers moi. Et dans ce sens-là, oui, je pense que la poésie est iconoclaste et qui, en tout cas, une première phase de cette activité-là, consiste à faire dysfonctionner les trucs.
Par exemple, un des chapitres de votre livre, c'est intraduire, avec ce préfixe qui dit que quelque chose est aussi refusé ou échoue dans la traduction, ce qui n'est pas anodin quand on sait votre propre rapport aux langues, qu'on dit maternelles, étrangères ou que sais-je, en tout cas votre parcours dans les langues, Jérôme Gamme. Qu'est-ce qui se passe dans l'intraduire?
Que quelque chose résiste. Qu'une langue, même si on la connaît bien parce qu'on se trouve être bilingue, natif ou qu'on l'a apprise, etc.
Ce qui est votre cas.
Quelque chose résiste et permet donc de frotter et par frottement contamine le rapport qu'on a à notre propre langue maternelle, entre guillemets. Ce qui est une expression très bizarre en plus. Mais bon, et qu'en connaissant une langue correctement, on finit par s'apercevoir que connaître tout court est une espèce d'illusion, en fait. Et qu'à nouveau, c'est pas une mauvaise nouvelle. Dès lors qu'on peut faire de cette espèce de connaissance qui est une, un mal connaître, une activité, un, presque plus que ça, un éros, un désir. Mmh. Un désir de continuer. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on connaît tout? On est très emmerdé. Je veux dire, il se passe plus grand chose.
Une tension.
Une tension.
On va écouter la voix d'Emmanuel Hocquart en 2006. Il parle de l'énoncé. L'énoncé, c'est aussi quelque chose que vous traitez, Jérôme Gamme, notamment du côté de la tension.
Un énoncé se déplace à une vitesse vertigineuse parce qu'il ne se cogne à rien. Il ne rencontre rien, ce n'est pas une phrase. Une phrase, elle bute sur la phrase qui suit et elle est coincée par la phrase qui précédait. Mmh. L'énoncé, il est autonome. Donc, sa vitesse est incalculable. Ce que j'appelle un énoncé, ce serait quelque chose comme, si ça existait, une proposition élémentaire. Une proposition qui ne dépend d'aucune autre. Et qui n'est précédée par aucune, qui n'est suivie par aucune, qui serait complètement autonome. Et qui n'aurait pas besoin d'être éclairée par une autre proposition. Ce qui est pratiquement impossible... impossible à trouver. Quoi qu'on dise, ça dit toujours ce qu'on ne dit pas. Voilà. Donc l'énoncé, ce serait une proposition qui atteindrait à une autonomie parfaite et qui, du coup, gagnerait ce double caractère ou cette double propriété d'être à la fois l'évidence même, la plus grande simplicité, la plus grande clarté et la plus grande énigme. Parce que, elle est trop pleine de sens ou elle est complètement vide de sens.
Si j'ai quelque chose à dire, alors c'est sans doute à partir de là, voire cela même, la tension première entre l'énoncé et lui-même. La ressentir, cette tension, y passer du temps, ne pas chercher à la résoudre immédiatement, car j'y renifle la porte à travers laquelle il me faudra passer pour écrire ce que je serai capable d'écrire et ce que cela supposera d'un rebranchement corps-mot avec et dans tous les sens. Le désir de raconter demeure bien là, mais rentré, encore trop difficile à traduire, car appelant un jeu de tension au carré entre l'énoncé et lui-même d'une part et entre ce dernier et la composition narrative d'autre part. De toute façon, une écriture existe des incapacités physiques comme des impossibilités logiques qu'elle affronte. Sans cet impouvoir originel et persistant, quoique changeant, je ne vois pas d'invention proprement poétique, ni d'intérêt à la chose. Poésie. Espace-temps où cet entêtement devient audible en soi, par soi-même comme par autrui, et ouvre, rebat les choses du monde, fût-ce par intermittence et en petits groupes.
Parler d'un jeu au carré, Jérôme Gamme, on va vous demander de commenter un texte lu par Garance, mais qui est de vous. Juste avant, on entendait la voix du poète Emmanuel Hocquart, figure très importante dans la poésie contemporaine française. Vous parlez d'un impouvoir, d'une incapacité physique, d'une incapacité textuelle à laquelle bute votre pratique d'écriture. Et on entendait au tout début de l'émission, vous parliez, dans la voix de Garance encore, en disant « je lance plein de trucs, je lance plein de trucs ». Et en fait, ça revient bredouille de roman. Ça veut dire que ça reste un horizon, se raconter façon roman?
Ça reste une espèce de fantasme qui est utile du fait qu'il rate, qui est utile du fait que je n'y parviens pas. L'extrait que vous avez passé de Hocquart est vraiment magnifique parce qu'il montre comment ce que l'énoncé serait deux choses. Un truc qui serait parfait, une pure complétude, et un peu flippant, et un autre truc qui serait vide. Et qu'il y aurait comme ça une espèce de bloc texte qu'on pourrait faire avec des énoncés et qui ferait que, quand je lis Hocquart, et pourtant, il a écrit des livres qui peuvent faire 500 pages. De... Mmh. Et ce sont des pages de bloc texte. J'ai l'impression que c'est donc de la prose, on va dire. Mais c'est comme du ciment qui ne prend pas. Ça reste frais.
La fraîcheur étant aussi quelque chose dont vous vous réclamez.
Oui,
vous
comme une peinture al fresco. C'est-à-dire que ça sèche pas. Ça devient pas un truc qui est, qui durcit. Et lui, il parvient à faire ça très souvent. Et ce que je cherche à faire, en fait, je me sers entre guillemets du roman et puis d'un certain type de roman. Mm-hmm. Je m'adresse à une romancière, mais c'est pas n'importe quel. Enfin, je prends un peu une espèce de caricature du roman qui serait la marquise sort à 5 heures, il y a ici et ça, et à la fin, 10 divisé par 5 égale 2, reste 0.
Ça, c'est non.
Ça, c'est non. Ça, c'est non, parce que j'ai l'impression que c'est un truc, on m'explique un truc, on me dit, bon, bah, très bien, on est ravis pour elle, mais qu'est-ce que ça peut? Et évidemment qu'il y a mille autres choses dans le roman. Donc, je m'en sers un peu comme une espèce de tête, entre guillemets, de turc, pour pouvoir montrer une idéologie qui serait, il n'y aura pas de manque, il y aura une pure complétude. Et, par exemple, Sebald. Sebald, on va dire que c'est un romancier, Sebald?
On va dire que c'est un écrivain, quoi.
C'est un écrivain. Bon, bah, voilà. Si on arrive à écrire un roman comme lui, il écrit ces trucs-là, bah, là, c'est juste splendide et c'est magnifique. Mais c'est d'une difficulté sans nom.
Le Book Club continue.
France Culture. Le Book Club. Marie Richeux.
Et on arrive à l'heure, et c'est pas toutes les semaines, on s'auto-félicite pour ça. Bonjour Mathilde Wagman.
Bonjour Marie.
À cette heure-ci, on parle littérature jeunesse. Aujourd'hui, vous allez une fois de plus nous parler de théâtre.
Oui Marie, mais pas comme vous l'imaginez. Je ne vais pas vous parler d'une pièce de théâtre, mais de cette chose que nous offre la lecture d'un album à des enfants. J'ai nommé l'incarnation, le jeu. C'est en effet une caractéristique propre à cette littérature. Pour ce qui est des albums qu'on lit à voix haute à de jeunes enfants, nous sommes amenés à incarner les personnages et les situations du livre, à les jouer, les interpréter, les performer. Façon acteur studio ou distanciation brechtienne, chacun son style. Je vous parle aujourd'hui d'un livre qui met cette singularité en abîme et en fait même son sujet. Il se trouve être aussi de saison puisqu'il s'appelle Le Berck Noël.
Le Berck comme le doudou Berck ?
Absolument, c'est en effet le nouvel opus de la série qui met en scène cette peluche à tête de canard prénommée Berck, B-E-R-K, née dans l'imagination de Julien Béziat et dont les 5 précédents volets, comme celui-ci, ont paru à l'école des loisirs. Berck possède en guise de corps, un carré de tissu coloré. Il a l'allure de tant de ces machins informes et cracra que les enfants élisent pour en faire ce que depuis le psychanalyste Donald Winnicott, on appelle un objet transitionnel. Chaque aventure est contée par l'enfant à qui appartient ce doudou, mais qu'on ne voit jamais, on ne sait d'ailleurs si c'est une fille ou un garçon, chaque histoire nous plongeant exclusivement dans l'univers de Berck et de ses camarades. Et ça commence toujours de la même façon. L'autre jour, un truc terrible est arrivé. C'est Berck, mon doudou, qui me l'a raconté. Mais la phrase est complétée. Un truc terrible est arrivé, dans mon bain, à l'école, dans ma cuisine. Chaque album explorant un nouveau territoire où se déroule une épopée, pleine de péripéties, avec toujours une catastrophe en son centre, le fameux truc terrible.
Qui nous rend curieuse. Donc ça, c'est pour le cadre général. Mathilde, et alors là, qu'est-ce que nous compte ce nouvel opus de Berck ?
L'autre jour, un truc terrible est arrivé, au spectacle de Noël. Cette année, Trouillette, ma tortue, a écrit une pièce de théâtre. Trouillette, personnage récurrent pour lequel j'ai une tendresse particulière car elle a un rapport à l'existence, disons, angoissé. Dans le bain de Berck, elle passait ainsi son temps à rentrer sa tête dans sa carapace, persuadée que le canard, tombé dans l'eau du bain, allait être successivement ébouillanté, étouffé par la mousse ou étranglé par la chaîne du bain. Il n'en était rien. Trouillette est ici dramaturge et metteuse en scène et c'est elle qui accueille le public devant un plateau d'abord caché par de beaux rideaux rouges.
Bienvenue à toutes et à tous pour notre nouveau spectacle qui s'appelle « Le Père Noël a disparu »,
annonce-t-elle en joie.
Vous allez voir, c'est une terrible histoire. Si c'est trop d'émotion, vous pouvez pleurer ou même crier. Je vous souhaite un très bon spectacle.
Et le rideau s'ouvre. Mise en abîme, récit dans le récit, Trouillette devient la narratrice de l'histoire que le spectacle va nous raconter, alors que sur la scène, on découvre le premier tableau. Berck, installé sur un traîneau, tiré par deux rennes, incarné par Aspiro, l'éléphant bleu, et Drago, le dragon jaune.
La première scène se passe dans le pays du Père Noël. Berck, le petit lutin, attend, inquiet.
Et c'est au tour de Berck de prononcer sa première réplique.
« Oh, mais c'est vraiment très bizarre. Le Père Noël est en pétard. »« En retard, pas en pétard !»
chuchote Trouillette depuis la fosse.
« Oh, pardon, se corrige Berck. Le Père Noël a disparu. Il s'est perdu dans la baignoire. »« Dans la nuit noire !» coupe Trouillette. « Comment veux-tu qu'il se perde dans une baignoire ?»
Oh purée, désolé, souffle Berck.
On enchaîne, dit Trouillette, on n'est pas là pour rire.
Alors que dans son dos, l'ensemble de l'assistance se marre. L'album voit se succéder des doubles pages figurant la scène, le cœur battant de l'action, et son contre-champ, le public, composé d'une dizaine de peluches qui vibrent au rythme du drame. Tableau suivant. Drago, dépité, contemple sa chaussette vide.
Dans cette maison, comme dans toutes les autres, c'est le silence et la tristesse. Aucun cadeau n'est arrivé. Au rage, au désespoir, au Noël fini, on ne verra plus jamais la joie des tout-petits. Drago prend alors la parole.
« Ne vous inquiétez pas, il va bien finir par arriver ce Père Noël. On va l'appeler tous ensemble. »
Et alors que Trouillette s'étouffe de ce que le dragon ne respecte pas son texte, il chauffe la salle à bloc. C'est dans une ambiance survoltée qu'arrive alors, sur un trapèze lancé à grande vitesse, une créature que Trouillette, improvisant à son tour, désigne comme étant le cousin du Père Noël, le Berk Noël. Notre bon vieux canard, avec une grande barbe blanche, s'écrase sur Aspiro, ce dernier s'effondre sur l'assistance, le tout dans un immense nuage de poussière blanche échappé de la hotte. Silence et panique, les spectateurs ont disparu.
« Désolé, Trouillette, dit Berk, je voulais faire de la neige. Je crois que j'ai mis un peu trop de farine dans mon sac. »
Mais le public, plus ravi que jamais, ressurgit du néant et tout est bien qui finit bien, car c'est le plus incroyable spectacle de Noël qu'on ait jamais vu.
Et pour conclure, Mathilde ?
Une petite citation de Shakespeare, ça fait toujours plaisir. « All the world's a stage, le monde entier est un théâtre ». Merci à ces dramaturges que sont les auteurs et les autrices d'albums pour enfants, maîtres en l'art de la direction, de ces acteurs que nous devenons, le temps de cette lecture partagée. Merci d'animer pour nous ces ateliers théâtre du quotidien et de nous offrir la joie d'interpréter ces fictions qui disent le spectacle de nos existences.
Oh, merci à vous Mathilde, Berk Noël, apparu à l'école des loisirs et votre chronique lecture jeunesse est à réécouter sur le site France Culture ou l'application Radio France. Et on n'en finit pas de jouer dans ce book club parce qu'on termine tous les jours par le grand jeu des pages musicales qui consiste à chercher la musique, toutes les évocations musicales dans tous les livres que nous trouvons ou que nos auditeurs et auditrices ont dans les mains. Il se trouve qu'on a parlé de la manière dont vous citez d'autres textes que les vôtres, Jérôme Gamme, et notamment vous citez un entretien de Glenn Gould, pianiste, grand musicien, avec Yehudi Menuhin, grand violoniste, grand musicien. On se quitte donc avec un extrait de votre livre, mais pas de votre texte. Par exemple, lorsque le répertoire s'y prête, j'ai fait des enregistrements de piano solo non pas avec deux ou quatre pistes, mais avec huit. L'idée étant de trouver un moyen de fusionner plein de perspectives, toutes captées simultanément mais différenciées par la suite et soumises à des techniques plus ou moins plutôt cinématographiques. Par exemple, une perspective serait celle d'une prise captée de l'intérieur du piano, façon jazz, avec les micros quasiment posés sur les cordes. Tandis qu'une autre serait celle d'une prise pleine d'une ambiance de fond de salle. L'avantage est que vous combinez ces perspectives dans une sorte de chorégraphie acoustique et que, de surcroît, vous faites ça après coup, après avoir mis le plus de distance possible entre vous et la session d'enregistrement. Vous établissez ensuite un plan directeur, un peu comme la liste des plans d'un réalisateur de film, et avec une musique appropriée, Scriabine par exemple, ça fonctionne extrêmement bien. Je suis sûre que Scriabine, avec ses théories mystiques sur une union parfumée des arts, sur des expériences transcendantes au sommet des montagnes et ainsi de suite, ne désapprouverait pas. Merci beaucoup Christophe Manon d'avoir été avec nous.
Merci.
Pour parler de votre livre Élégie mineure paru aux éditions Nous. Merci beaucoup Jérôme Gamme d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Pour parler de votre livre Intransitif poétique de l'interstice paru aux presses du Riel. Et puisque ces jours-ci nous recevons plein de stagiaires dans les murs de Radio France, je leur laisse à Nina et à Liv le soin de faire le générique.
Au son aujourd'hui c'était Paul Guig.
À la réalisation, Vivien de Meyer.
Un grand merci à toute l'équipe du Book Club.
Et particulièrement aujourd'hui à Garance Roubieux.
La discussion se produit sur les réseaux Instagram et par mail.
Je m'appelle Liv.
Et moi Nina.
Nous sommes en troisième et en stage cette semaine à Radio France.
Bon après-midi sur France Culture et vive la radio.
Ah ouais.